roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no vi aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamunzayardum Jones, Vashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armat et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanc, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, vous êtes autre chose.
Bonsoir ou bonjour à tous. L'heure qui suit est dédiée à René Guicadou, poète comète né en 1920 et qui a disparu en 1951. Et peut-être nous allons tout de suite le laisser parler.
Et pouvez-vous nous dire pourquoi vous écrivez ?
Oui, je l'ai dit quelque part. J'écris par ambition, pour me mériter moi-même, pour me persuader que je vis, par innocence aussi sans doute, mais qu'un poème de moi continue de vivre dans la mémoire de quelque ami inconnu, que ce poème l'allège ou le renforce dans sa conviction d'homme, et croyez-moi, je me sens récompensé.
Voilà, notre émission commence donc, chers auditeurs, par un canular, puisque ce n'est pas vraiment la voix de René Guicadou que nous avons entendue, c'est celle de Luc Bérimont qui était son ami. C'est effectivement René Guicadou qui a écrit ces quelques lignes, mais il était très malade au moment où l'émission a été faite, c'était en 1950, c'était chez Pierre Béarn. Et c'est donc Luc Bérimont, homme de radio aussi, mais poète aussi et grand ami de René Guicadou, qui a lu ce texte. Bon, ça ne change rien au contenu. Alors, qui est René Guicadou ? Eh bien, c'est un enfant, on pourrait dire un enfant de la campagne et à la fois un enfant de l'école républicaine, puisqu'il naît en Brière, à Sainte-Reine-de-Bretagne, en avril 1920, je crois. Christian, tu me corrigeras si j'ai une bêtise, c'est bien ça.
En février 1920.
Voilà, et il naît donc dans cette Brière. Alors la Brière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette petite région de marécage qui se trouve au nord-est de Saint-Nazaire et qui est en fait une ancienne grande partie de la mer qui a été enfermée par les collines de Guérande. Donc ça donne un paysage de marécage très impressionnant. C'est un pays de chaumières, c'est un pays de chasseurs et de pêcheurs. C'est un pays qui, la plupart du temps d'ailleurs, en hiver encore il y a une cinquantaine d'années, enfin ou même plus quand Cadou y est né, où on n'avait pas d'autres contacts avec l'extérieur que par les canaux, où les briérons allaient vendre la tourbe sur des plates, comme on disait, sur des barques qu'on poussait à la perche et qui remontait la Loire jusqu'à Nantes pour vendre la tourbe. Et donc voilà, Cadou, il va naître dans cette petite école de Sainte-Reine-de-Bretagne, où son père est instituteur, et il va être très très marqué par cette ambiance très paysanne, par ces gens assez pauvres et humbles, les gens de la campagne ou des petits villages.
Oui, ça pourrait être quasiment un lieu commun que de le dire, hein, puisque les traces campagnardes, cette campagne que tu viens de décrire, Michel, on les retrouvera tout au long de la courte vie de René Guicadou, de façon incessante. Il y fait implicitement ou pas référence, la campagne est toujours là, la nature, le monde animal.
Voilà, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de gens des métiers, il y a le forgeron, il y a le facteur, il y a les ivrognes aussi.
C'est un métier.
Voilà, c'est un métier, c'est un métier. Aussi, surtout en campagne. À cette époque-là, là-bas, on y parle beaucoup, on voit beaucoup d'oiseaux, les fuchsias, les graminées, des pommes, beaucoup de pommes. Chez Cadou, beaucoup de coloquintes aussi, et beaucoup de sang. C'est parce que peut-être la chasse, ou peut-être il parle de son père qui part avec les chasseurs très souvent, qui revient avec du gibier. Il y a aussi beaucoup de vaisselliers, enfin, ça sent la campagne, les vieux bahuts. Et en même temps, c'est un enfant qui très très tôt a le sentiment de la brièveté de la vie et de la maladie.
Oui, en évoquant tous ces thèmes, en les déclinant, on pourrait craindre qu'il y ait chez René Guy Cadou une forme constante de nostalgie. C'est pas exactement le terme qui conviendrait. C'est de la rémanence. Il n'y a pas d'idéalisation particulière de ce temps-là, bien que cette puissance de l'enfance, on la retrouve donc tout au long de ses poèmes et de son œuvre.
Voilà. Oui, Hélène, qui deviendra sa femme, dit simplement qu'il n'est jamais parti de l'enfance, un territoire où il retourne tout le temps. Pas forcément mélancolique, comme tu le dis, mais avec un attachement très très fort à tout cet univers. Il dit d'ailleurs, et ça pourrait résumer tout ce qu'on va dire, « l'Amérique à 300 mètres de chez nous ».
Je n'ai pas oublié cette maison d'école où je naquis en février 1920. Les vieux murs à la chaux, ni l'odeur du pétrole dans la classe étouffée par le poids du jardin. Mon père s'y plaisait en costume de chasse. Tous deux nous y avions de tendres rendez-vous. Lorsqu'il me revenait d'un monde de ténèbres, d'une Amérique à 300 mètres de chez nous, je l'attendais couché sur les pieds de ma mère, comme un bon chien, un peu fautif d'avoir couru du jardin au grenier, des pistes de lumière et le poil tout fumant d'univers parcouru. La porte à peine ouverte, il sortait de ses manches des jeux de cartes, des sous belges ou des noix, et je le regardais, confiant dans son silence, pour ma mère tirer de l'amour de ses doigts. Il me parlait souvent de son temps de souffrance, quand il était sergent-major et qu'il montait du côté de Tracy-le-Mont ou de la France la garde avec une mitrailleuse rouillée. Et je riais et je pensais aux pommes mûres, à la fraîcheur avoisinante du cellier, à ce parfum d'encre violette et de souillure qui demeure longtemps dans les sarraux mouillés. Mais ce soir, où je suis assis auprès de ma femme, dans une maison d'école comme autrefois, je ne sais rien que toi. Je t'aime comme on aime sa vie dans la chaleur d'un regard d'avant-soi.
J'ai toujours habité de grandes maisons tristes appuyées à la nuit comme un haut vaisselier. Des gens s'y reposaient au hasard des voyages, et moi je m'arrêtais tremblant dans l'escalier, hésitant à chercher dans leur maigre bagage peut-être le secret de mon identité. Je préférais laisser sur moi, comme une eau froide, le doute d'être un homme. Je m'aimais dans la splendeur imaginée d'un végétal d'essence blonde avec des boucles de soleil. Ma vie ne commençait qu'au-delà de moi-même. Ébruité doucement par un vol de vanneaux, je m'entendais dans les grelots d'un matin blême, et c'était toujours les mêmes murs à la chaux, la chambre désolée dans sa coquille vide, le lit cage toujours privé de chants d'oiseaux. Mais je m'aimais, ah, je m'aimais comme on élève au-dessus de ses yeux un enfant de clarté, et loin de moi, je savais bien me retrouver ensoleillé dans les cordages d'un poème.
Tu as 7 ans et tu vas à l'école. Tes vêtements sentent la colle de menuisier. Tu as rempli de fleurs champêtres ton plumier. Tu marches lentement en évitant la fange. Tu as des étoiles dans tes cheveux qui te démangent. Tu regrettes un peu l'odeur des grands sapins. Tu voudrais t'arrêter et partager ton pain avec la petite fille qui passe. Tu n'es pas toujours le premier en classe, tu es bavard. Tu dessines des chats sur ton papier buvard. Tu regardes souvent le ciel par la fenêtre. Tu rêves à de bons bergers qui t'ont vu naître. Mais tu sais lire aussi. Et déjà dans le vent, tu découvres tout seul des tas de mots savants, des mots qui, prononcés, font du bien à tes lèvres. Tu sais tresser le jonc et conduire les chèvres. D'un geste simple et doux, apaiser les chevaux. Bruire comme un laurier pour consoler l'oiseau. Tu aimes caresser le front blanc de ta mère. Tu es l'enfant que je vénère. Tu es bien le fils de mon Dieu.
L'enfant précoce. Une lampe naquit sous la mer. Un oiseau chanta. Alors, dans un village reculé, une petite fille se mit à écrire, pour elle seule, le plus beau poème. Elle n'avait pas appris l'orthographe. Elle dessinait dans le sable des locomotives et des wagons pleins de soleil. Elle affrontait les arbres gauchement, avec des majuscules enlacées et des cœurs. Elle ne disait rien de l'amour pour ne pas mentir. Et quand le soir descendait en elle, par ses joues, elle appelait son chien doucement et disait « Et maintenant, cherche ta vie ».
Moineau de l'an 1920, la route en hiver était belle. Et vivre, je le désirais, comme un enfant qui veut danser sur l'étang au miroir trop mince. Ô toi, qui m'as connu, mon père, tu témoigneras pour moi, s'il le faut, dans le prétoire à peu près vide des années. Je ne suis point venu sur cette place ensoleillée où c'est la fête, avec des intentions de sergent de ville ou de marchand de bêtes. Et s'il me plaît à moi de laisser rire et de pleurer tout seul dans l'allée, qu'est-ce que ça peut faire au juge ? Dites, qu'est-ce que ça peut faire un enfant sous la roue quand il y a de jolies femmes sur les bancs et que l'air est particulièrement doux ? Condamnez celui qui veille sur les lys et les absinthes, les secondes lui battent dans le cœur comme des graines de coloquinte. Je suis là pour tout accepter et je ne plaide pas innocent, je crois en Dieu, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Parce que c'est tout à fait extraordinaire d'être né un jour de carnaval au fond de la Brière, où rien n'est travesti, où tout se règle à l'amiable entre deux coups de fusil.
Te souvient-il de la douceur des petits trains dans les pays des bords de mer entre les tamarins? Tu es en voyage avec ton père et tu regardes un collège de bœufs qui part en promenade. Tu es dans un bistrot près du mécanicien à lui rafistoler les lignes de la main. Et tu songes tout bas à ta mère qui brode des jeux de loto bleu et de jolies pagodes. Et dans la chasse à cour de la tapisserie, des yeux comme nous font les vieilles eaux de vie. Train circulaire des bords de mer et des banlieues, libère tes chauffeurs et renverse tes feux. Tu ne peux me mener plus loin que ton ancêtre, qui paissait tristement le long de la banquette, tandis que descendait entre les tamarins un enfant qui poussait les wagons d'une main. Te souvient-il de la douceur des petits trains dans les pays des bords de mer entre les tamarins? Tu es en voyage avec ton père et tu regardes un collège de bœufs qui part en promenade.
Voilà, Jacques Douet chantait Les Petits Trains, un poème de René Kikadou. Je ne sais pas qui a fait la musique, mais bon, on aurait cru que c'était Mouloudji parce que ça sonne ancien. Hein, c'est Jacques Douet, c'est les années 50-60. Donc on a laissé René Kikadou dans sa Brière natale, mais ça ne va pas durer très longtemps. Son père, qui est instituteur, donc se déplace et suit des postes
Saint-Nazaire.
À Saint-Nazaire. Il arrive à Saint-Nazaire, il a 7 ans. Et on a oublié de dire qu'il avait un grand-père maternel qui était capornier et qui va compter pas mal dans l'imaginaire du petit René Kikadou. Il y a autre chose aussi qui va rentrer en ligne de compte. Son père donc enseigne à l'école de la rue Cardurand et il va aller au cinéma L'Athénée, qui est toujours, je crois, en fonction à Saint-Nazaire. Donc permanence du cinéma, et là il va découvrir Chaplin, Keaton. Et ça va être très très important pour lui. Il va se mettre aussi à lire tous les grands romans d'aventure, Alexandre Dumas, Fenimore Cooper, les romans policiers également. Et puis, il va souvent de l'autre côté de la Loire, par le bac de Mindin. Il va visiter une partie de la famille. Donc, il est baigné aussi dans cette atmosphère, on va dire, océane, quoi. Et la mer est toujours présente, pas loin.
Oui, il y a chez René Kikadou cette réelle empathie pour la culture populaire, hein. Les romans populaires, les romans policiers, c'est quelque chose qu'il découvre et qu'il revendiquera d'une certaine façon, puisqu'il n'aura quand même de cesse de s'inscrire en faux par rapport aux institutions littéraires. Il a cette volonté de toujours remettre sur le tapis, si je puis dire, cette culture qui est la culture de la terre dont on parlait tout à l'heure.
Les
comme
pauvres,
on disait,
les gens de peu, voilà. Les simples. Et donc il va partir, l'épisode de Nazérien, ça dure 3 ans. À 10 ans, son père, enfin quand il a 10 ans plutôt, son père est nommé à Nantes. En fait, le parcours de Kikadou va rester toute sa vie autour de la Loire. Il ne va faire que naviguer dans ce qu'on appelait autrefois la Loire inférieure, qui est devenue la Loire Atlantique. Il va donc aller à Nantes où son père est nommé, je crois, à l'école Hoche. Et il traverse chaque jour, 4 fois par jour, le pont au-dessus de la Loire pour se rendre au lycée quand il y entre. Et puis arrive un événement qui va être très violent dans sa vie, qui est la mort de sa mère à 12 ans, qui part emportée par une maladie très très rapidement. Le premier grand choc. Et on peut imaginer quoi, cet enfant de 12 ans qui se retrouve tout seul avec ce père qui va jouer un peu les deux rôles, qui va beaucoup le protéger dans les 2 ou 3 années qui suivent, avant de se remarier. Et c'est là que Kikadou va avoir la révélation de la poésie, parce que son père lui lit les cahiers de poèmes qu'il a écrits pendant la guerre. Parce que donc le père, on l'a pas dit, mais le père était au front pendant la guerre de 14-18, et il écrivait des poèmes. Et c'est une révélation pour l'enfant. Alors il va commencer à écrire très tôt. Il écrit à partir de 15 ans. Quasiment.
Il écrit à partir de 15 ans. Alors, peut-être juste un rappel un petit peu antérieur. 29, c'est le décès de sa grand-mère paternelle également, qui est importante, c'est un personnage important. Lui raconter des histoires qui l'auront marqué, dont on retrouvera également la trace. Et puis c'est Nantes. On est en 1930, c'est ça?
Oui, c'est ça. 1920-1930, il a 10 ans. Quoi.
Quand on se rappelle un peu à l'époque, 1930, Nantes, c'est la cité magnétique des surréalistes.
Oui, aussi. Oui, évidemment. Oui, oui. Voilà. Hein, c'est Perret
c'est
aussi.
Perret, voilà. Le fameux texte de Breton sur Nantes, et qui aura compté pour René Kikadou.
Oui,
même si après, il prendra
Nantes.
Ses distances.
Hein, absolument. Bien,
thank you. Tu ne reviendras plus dans le chaud de l'étable, tandis que tes deux mains saignent sur les rosiers. Tu vas et tu souris. Les pampas de tes yeux soulèvent des gazelles. Soudain, les arbres font un doux cliquetis d'ailes. La cloche du souper berce le monastère. Je marche près de toi. Ta croix est plus légère. Et nous nous arrêtons souvent sous les tonnelles. On parle à ceux qui boivent. La femme qui mendiait son fils était bien brave. Tu te souviens, Seigneur, celui qu'on a trouvé, avec un gros bouquet de sang sur le côté. Tous les cœurs se dérident. Tu es loin, et la croix a laissé un grand vide, mais ta photographie est sur la cheminée.
Ce sera comme un arrêt brutal du train au beau milieu de la campagne, un jour d'été. Des jeunes filles dans le wagon crieront, des femmes éveilleront en hâte les enfants. La carte jouée restera tournée sur le journal, et puis le train repartira. Et le souvenir de cet arrêt s'effacera dans la mémoire de chacun. Mais ce soir-là, ce sera comme un arrêt brutal du train. Dans la petite chambre qui n'est pas encore située, derrière la lampe qui est une colonne de fumée, et peut-être aussi dans le parage de ses mains qui ne sont pas déshabituées de ma présence, rien ne subsistera du voyageur. Dans le filet troué des ultimes voyages, pas la moindre allusion, pas le moindre bagage, le vent de la déroute aura tout emporté.
Condamnation à vie. Je n'ai pas changé ma douleur d'épaule. L'aiguille noire de l'index donne le pôle. Et je suis seule à savoir où je vais. Le visage découvert. À quel cheval amour vont s'atteler mes bras? Où bat ce cœur? Dans quelle eau morte? Quelle main fermera la porte? La ligne d'horizon au fond de la serrure. La route au pied du mur. Et les oiseaux qu'on voit fleurir dans la verdure. La tête sous la cendre. Le plafond par où descendre dans le ciel, les faux départs inscrits dans les cadres dorés, les moussons fraîches de la fenêtre, celui qui vient de disparaître a tout emporté.
J'habitais dans les fins fonds de la salle de classe, près du chauffage central, assez semblable à un vieux fer à repasser, une demeure bancale à pupitre de sapin, les pieds confortables. Je m'adonnais par passion à la lecture de divers romans policiers dont le parfum de la dame en noir n'était pas le moins exaltant. Il y a quelque 10 à 15 ans de cela, je n'ai jamais rien fait pour me pousser vers l'estrade, vers cette chaire maculée d'encre noire où officiait, entre 8 et 11 heures, un prêtre en veston, agrégé de lettres ou de philosophie. Villon, Daubigné, Nerval, Rimbaud, Lautréamont, Escamoté. Verlaine, minimisé. Vigny, Hugo, abattardi. Nous faisions notre pâture d'explications de textes réduisant les tragédies raciniennes à des colloques de jésuites.
Liberté. Couleur des feuilles, liberté, la belle joue, jeune fille qui dénoue tes cheveux blonds sur le seuil, tes cheveux blonds sur le seuil. Flamme, neige, épaule nue, arc-en-ciel de la rosée, ô visage pavoisé de 100 regards inconnus, de 100 regards inconnus. pas ou la plume légère. Saint jaillit, odeur de pain, blanche vague de la main. À tâtons dans la lumière, à tâtons dans la lumière. La plus pauvre du village, la plus belle sous les coups, toi qui fais chanter les fous et qui fais pleurer les sages, et qui fais pleurer les sages.
Voilà, Manu Lanuel chantait « Liberté couleur de feuille » de René Guicadou, dont il a fait la musique. On peut faire une petite parenthèse très rapide. Énormément de gens ont chanté René Guicadou, qui est un poète très musical. Maurice Bénin, Jacques Bertin, Eric Hollande, Martine Kaplan, qu'on a entendu tout à l'heure dire « Allez simple », c'était extrait de son disque, et bien d'autres encore. On reprend le cours de la vie de René Guicadou. Il est donc à Nantes, il est lycéen. Son père s'est remarié quand il a 15 ou 16 ans et il va découvrir donc la poésie, on l'a dit, d'abord par les textes de son père, mais en lisant d'autres poètes. Et puis il va y avoir une rencontre extrêmement importante pour lui, c'est celle de Michel Manol, qui est libraire.
Qui est libraire,
oui. Qui s'appelle en fait l'aumônier, mais qui va prendre le nom de poète, qui est poète lui-même aussi, de Manol, qui doit être de 9 ans son aîné, je crois.
C'est ça, oui.
Et il va découvrir dans la librairie de Michel Manol, et par Michel Manol, beaucoup de poètes contemporains. Oui.
La librairie, précisons-le, c'est pas tout à fait anodin, c'est même assez curieux. Librairie qui se situe rue Dupont Sauve-Tout.
Absolument. Voilà, donc on va dire que Cadou va trouver son salut à travers la poésie.
Par exemple.
Et que Michel Manol joue un rôle très très important parce qu'il le guide un peu dans ses lectures et il l'encourage. Et surtout, quelque chose qui est très important, c'est que, alors que Cadou a l'impression que c'est une activité un peu honteuse, quoi, Michel Manol va le convaincre du contraire en lui disant que ce n'est pas du tout une maladie honteuse que d'écrire des poèmes. Au contraire, il dit que c'est la langue des muets et il faut que tu assumes cette langue. Alors il y a des très belles pages. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé pour préparer cette émission avec Christian sur le petit Segers qui est fait par Michel Manol, le petit livre de la collection Poète d'aujourd'hui, collection qu'on ne trouve plus aujourd'hui d'ailleurs, mais on doit pouvoir le trouver chez les bouquinistes.
Oui, sur les marchés, on le trouve sur les marchés, ce qui aurait plu à Cadou du reste.
Voilà, oui. Alors bon, c'est une histoire d'amitié absolument indéfectible entre Michel Manol et Cadou, et Manol va lui faire découvrir des tas de choses, tout le surréalisme, Apollinaire, beaucoup, Reverdy également, et puis il va être une sorte d'aîné qui va couvrir d'affection René Guicadou, qui est quand même, bon, très secoué par les différents deuils qu'il a traversés. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Cadou plus tard, dit, parlant de cet encouragement de Manol, il dit « Il faut être grand pour être seul, mais il faut être seul pour être grand. » Et c'est ce que Manol lui a fait découvrir. Alors, côté études, ça ne marche pas très fort. Cadou rate son bac, je crois, plusieurs fois de suite. Manol, qui est malade, doit quitter Nantes. Donc c'est un choc aussi pour lui. Oui. Et il va le visiter à Saint-Brévin, où il a où il est, je crois, à l'hôpital, enfin dans un sanatorium. Et puis, Cadou va faire une démarche très importante. Il va écrire à Max Jacob que Manol lui a fait découvrir. Et Max Jacob lui répond disant « C'est formidable ce que vous écrivez. » Et c'est un encouragement extraordinaire, quoi. C'est comme si le bon Dieu était descendu dans sa salle de classe pour lui dire « C'est vous qui êtes choisi. Voilà. »
Max Jacob lui dit également autre chose, enfin beaucoup de choses, puisqu'il y a une correspondance, bien évidemment. Quelque chose qui va rester, qui va marquer également Cadou, c'est « Soyez humain si vous voulez être original, car personne ne l'est plus. »
Alors voilà, j'avais choisi un tout petit passage parlant de... Il rencontre donc plein de gens, il rencontre aussi Jean Follin, ouais. Grand poète, et il y a ce petit texte que raconte Manol. Ils se promenèrent bras dessous, dans d'interminables flâneries à travers le vieux Nantes, explorant le quartier de la Madeleine en quête de filles perdues et de mauvais garçons, s'arrêtant dans les charcuteries pour y acheter de la fraissure de porc, ce que Follin appelle du sang. Et Cadou disait de son côté, avant de s'installer à sa table de travail, « Maintenant, nous allons manger du saignant. » Découvrir-t-il ce café qui porte comme enseigne au repas de Jules César, que hanta le bon Paul Fort, du temps qu'il était capitaine du port de Nantes. Ce dialogue que nous rapporte l'excellent et vaillant écrivain Morvan Lebesque, nantais lui-même, on imagine fort bien Cadou et Follin l'animant. Jules César, c'était un gars du pays, non ? Non qu'il était en voyage. Il n'était qu'en voyage par ici, mais c'est ici qu'il est mort. Ah, ici ! Exactement, monsieur, au temps des Romains. Et il a été enterré dans le jardin.
Quand ce sera la nuit, et toi tout seul dans une limousine, quelque part sur une route de forêt, quand ce sera nuit noire, ô mon poète, aie garde d'allumer tes phares, appuie de toutes tes forces sur le champignon de la beauté, sans rien savoir, et sans souci du flot battant ton pare-brise. Enfonce-toi comme un noyé dans la nuit rageuse qui grise. Tu as perdu la direction, le nord, l'étoile, les feux de position, et tu sens soudain un grand choc. Tu es couché tout près de toi dans la verdure, tu es comme 1000 petits trous de serrure qui regardent dans ta tête éclatée les éléments épars de la beauté. Et qui viendrait te chercher là, quand tu disposes de toi-même, secrètement, pour un destin qui ne peut plus te laisser seul ? N'appelle pas, mais entends ce cortège innombrable de pas.
Épisode. Je ne sais rien de plus que vous. J'arrive de la ville, le cœur barbouillé. Je parle seul et vite. Je suis pressée de tout me dire, comme si j'allais perdre la mémoire. Il est midi, et je me fais des signes, car la lumière est transformée. D'un moment à l'autre, les visages vont s'éclairer, quand il sera trop tard. Des femmes et des enfants quittent Barcelone, à pied.
La solitude. Avec une feuille tombée, avec le trop-plein d'un seau, avec cette lampe aux œufs d'or sur la desserte de la neige, quand il a bien fait froid dehors. Avec une route où s'avance un cheval qui n'est pas d'ici, avec l'enfant glacé tout seul dans un autocar de rêve. Avec des villes consumées dans le désert de ma mémoire, un ciel d'épines et de craie où le soleil ne vient plus boire. Avec l'idiot désemparé devant ses mains qui le prolongent et dont le cœur comme une orange suscite un désir de forêt. avec toi, qui me dissimule sous les tentures de ta chair. Je recommence le monde.
Mon Dieu, cela m'arrive de penser à toi comme à un survivant de la marine à voile. Je me mets sous la lampe et je te dis raconte. Le riz, le poisson sec et le trafic des montres. Tu serais tout à fait comme l'oncle Isidore, qui était roux de poils et qui peut-être est mort, et qui laissait traîner dans le fond de ses malles un chapelet en bois de son pays natal. Ah! Tu as tant et tant vécu et bourlingué que ton amour remonte en moi comme un noyer. Ce que je prends ce soir pour ton triste sourire, c'est la vague du sort qui berce le navire. Et celui que je vois et que je crois tout près est quelque part sur un rivage crucifié. Mais pas si loin, mon Dieu, que je ne puisse joindre mes deux mains sur ton front comme des térébintes.
Celui qui entre par hasard dans la demeure d'un poète ne sait pas que les meubles ont pouvoir sur lui, que chaque nœud du bois renferme davantage de cris d'oiseaux que tout le cœur de la forêt. Il suffit qu'une lampe pose son cou de femme à la tombée du soir contre un angle verni pour délivrer soudain 1000 peuples d'abeilles et l'odeur de pain frais des cerisiers fleuris. Car tel est le bonheur de cette solitude qu'une caresse toute plate de la main redonne à ces grands meubles noirs et taciturnes la légèreté d'un arbre dans le matin.
À 7 heures dans le monde, il y a peut-être une petite fille qui cueille des fleurs sur le bord de la voie dans un pays meilleur. Et dans un port de mer, quelqu'un agite son mouchoir longuement comme un télégramme chiffré. Je pense à des automobiles chics, à un petit ruisseau plein d'écrevisses à chaviner, à la dernière page d'un roman populaire, un soir où le vent souffle. Je pense à cette petite gare perdue dans les bois, où je ne descendrai jamais. À 7 heures, il y a des villas vides sur la côte, et l'hôtel de la plage est couvert de fumée, qui est fumée d'ennui ou fin d'une marée. Il y a un château étrange dans la nuit, et le vieux jardinier lit du Montépin en fumant doucement sa pipe. Il y a sur l'océan un transatlantique qui est comme l'arche de Noé. Mais le garçon des troisièmes classes regrette la métairie de ses parents et les jours de grandes fêtes et les compétitions cyclistes dans les bourgades du canton. À 7 heures dans le monde, une fleur s'entr'ouvre. Un poète retrouve soudain la raison et l'aviateur qui croyait tomber dans la bouteille du soleil comme un ludion ivre se met à rire et dégrafe son col. Ah, dans cette minute où je ne vieillis pas, comment penser à autre chose qu'à toi ? à tes seins de colombe, à ta bouche, à tes mains, à ta beauté bien faite, à tes longues jambes qui m'emportent, à tes caresses qui fleurissent chaque soir comme un lilas.
Dans les années, à la fin des années 30, et le père de Cadou, donc, qui était instituteur, tombe très malade. Il est malade pendant presque 2 ans, il ne quitte plus sa chambre et il a dû donc abandonner le poste qu'il avait. Ils ont aussi déménagé puisque le poste, enfin la maison des Cadou était un appartement de fonction, donc ils partent au bord de la Sèvre dans un appartement beaucoup plus petit. Les rumeurs de la guerre se font de plus en plus présentes. Cadou rate son bac, il est toujours dans cette histoire, enfin de cette amitié avec Manol. Il picole pas mal, il faut le dire aussi. Enfin, il a fait aussi l'apprentissage du vin en même temps que l'apprentissage de la poésie, parce que ce sont deux choses qui sont liées depuis la nuit des temps.
Il y a une photo plus tardive qui le montrera en train de réparer un tonneau.
Oui, ça c'est à la fin de sa vie, quand il est à Louis-Ferre, même je crois à Saint-Herblon, où il loge chez un tonnelier qui lui apprend son métier. Voilà, il y a toujours ce côté très proche de la matière, de la nature, du travail manuel.
Des produits de la nature.
Et des produits de la nature. Oui. Donc il rate son bac, il essaye de gagner mal sa vie en travaillant au tripostal. Et puis au début de la guerre, il passe le concours d'instit en se disant « bon, je vais au moins vivre de ça ». Et il vit pendant toute cette période, une vie disons un peu de débordement. débordement, une vie de café, et dans laquelle il pratique la poésie un peu clandestinement. C'est-à-dire qu'on lui demande ce qu'il fait, bah, il dit « je suis instituteur », c'est tout. Il ne parle jamais de ça. C'est vraiment un domaine, un jardin secret dont il ne parle à personne. Et pourtant, il a déjà publié, il a publié très tôt, à 17 ans, par le biais de Michel Manol, un premier recueil qui s'appelle « Les brancardiers de l'aube ». Et il va se mettre à publier très très régulièrement. Il écrit énormément, il ne fait que ça finalement. Il est très solitaire, à part les beuveries de Nocturne. Et il va quand même écrire dans cette très courte vie 32 recueils de poèmes. Et on est dans cette période où la guerre s'annonce. Et puis le père donc très malade. Le père meurt au début janvier 40. Et c'est le grand choc pour Cadou. On peut imaginer qu'un garçon de 20 ans qui perd successivement à 8 ans d'intervalle sa mère et son père est particulièrement commotionné. Et donc là, il va décider d'aller voir Max Jacob. Et il rencontre...
On est en 40.
Mmh. Il va aller voir Max Jacob et peut-être le mieux, c'est qu'on lui laisse la... Je vais vous lire un petit extrait où Cadou raconte lui-même sa rencontre. C'était en février, il pleuvait, l'autocar de Saint-Benoît était bondé de militaires et de femmes faciles descendant vers Gien. Dans cette pluie grise de l'ouest, à l'odeur de caban mouillé, il distingue, bientôt à la lueur d'un phare d'auto, la silhouette du poète pénitent. Sous un béret de garde-côte, voici que vient à lui un petit homme à l'allure bizarre, de charpentier de village, le nez surmonté d'un lorgnon d'or, comme en portent les notaires dans les romans de Balzac. Max m'entraîne dans la cuisine à carreaux rouges de boucher bistrot, me présente à toute la famille réunie autour du pot-au-feu, coupe mon pain, parle pour moi. Max m'interroge. Tu crois en Dieu, bien sûr? Non, ne me réponds pas. Tous les enfants perdus croient en Dieu. J'ai prié pour toi au chemin de croix. Mon Dieu, ayez pitié de René Guy Cadou, qui ne sait pas que ses vers sont le meilleur de vous.
30 mai 1932. Il n'y a plus que toi et moi dans la mansarde, mon père. Les murs sont écroulés. La chair s'est écroulée. Des gravats de ciel bleu tombent de tous côtés. Je vois mieux ton visage, tu pleures. Et cette nuit, nous avons le même âge, au bord des mains qu'elle a laissées. 10 heures, la pendule qui sonne et le sang qui recule. Il n'y a plus personne, maison fermée. Le vent qui pousse au loin une étoile avancée. Il n'y a plus personne. Et tu es là. Mon père, et comme un liseron, mon bras grimpe à ton bras. Tu effaces mes larmes en te brûlant les doigts.
Embarqué dans le train de nuit qui ne s'arrête jamais, sans avarie possible de machine, sans espoir d'entendre battre au loin une petite gare, ses volets verts et la plus grise de son timbre. Mais la grande fuite est perdue dans une éternité malingre. Anna, ma mère, dans la couchette du wagon, et mon père au-dessus qui la protège de son affection. Je vous vois l'un et l'autre, dans ce même lit où je suis née. Je suis couchée entre vous deux, et vous n'avez plus de place pour vous retourner. Je prends dans mes deux mains vos deux mains qui s'éteignent, pour qu'elles soient chaudes et farineuses comme des châtaignes, quand la braise d'hiver les a longtemps mûries. Ah, croyez-moi, je ne sais rien de plus atroce que de vous laisser partir seul pour ce voyage de noces, que d'attendre durant des mois et des années derrière la fenêtre étroite et grillagée le passage de l'ange essoufflé qui m'appelle, à l'aubette perdue dans les genêts du ciel, où le train qui vous mène est enfin arrêté.
Thank you.
Qu'est-ce que je suis, moi, Pacifique Liotro, depuis qu'on a enterré les personnes du château? Un rien, une clé perdue dans un massif, un survivant des derniers feux d'artifice. Et le vieux garde-chasse, en rond, s'assied dans le soleil, avec sa tristesse à ses pieds. Ce n'est pas d'avoir arrosé les glaïeuls qui le rendra ce soir un peu moins seul. Voilà 20 ans qu'il n'a pas bu de bon café, mais de l'eau rouge sur des glands éclatés, et qu'il dort comme un enfant d'asile dans un liquage entouré de vieilles photographies de mariage. Mais ce soir, c'est plus fort que lui, si l'air est doux, si la sueur colle à la jointure de ses genoux. Il est debout dans sa jeunesse, et il s'habille de velours vert avec des boutons qui brillent. Entendez-moi, je suis Pacifique Liotro, je suis le garde-chasse du château. Qu'est-ce qu'il porte là dans ses deux mains brisées? Un corps de cuivre noir comme un poulet vidé.
La nuit. La nuit surtout, je ne rêve pas, je vois, j'entends, je marche au bord du trou. J'entends gronder. Ce sont les pierres qui se détachent des années. La nuit, nul ne prend garde, c'est tout un pan de l'avenir qui se lézarde, et rien ne vivra plus en moi, comme un moulin qui tourne à vide. L'éternité. De grandes belles filles, qui ne sont pas nées, se donneront pour rien dans les bois. Des hommes que je ne connaîtrai jamais battront les cartes sous la lampe un soir de gel. Qu'est-ce que j'aurais gagné à être éternel? Les lunes et les siècles passeront, 1 million d'années, ce n'est rien. Mais ne plus avoir ce tremblement de la main qui se dispose à cueillir les œufs dans la haie. Plus d'envie, plus d'orgueil, tout l'être satisfait et toujours la même heure imbécile à la montre. Plus de départ à jeun pour d'obscures rencontres, je me dresse comme un ressort tout neuf dans mon lit. Je suis debout dans la nuit noire et je m'agrippe à des lampions, à des fantômes pas solides. Où la lucarne? Je veux fuir. Où l'écoutille? Je m'attache à cette étoile qui scintille, comme un silex en pointe dans le flanc, ivrogne de la vie, qui conjugue au présent le liseron du jour et le fer de la grille.
Les gens qui vivent près des terrains d'écarissage, leurs enfants rêvent. Et dans la peau d'un vieux cheval se glissent dès 4 heures. On voit une cheminée qui fume, une maison maigre et des tabacs en fleurs dans un jardin. Écoute-moi, tu passeras entre la 5e et la 6e planche, à gauche. Sous les côtes de la bête, un journal brûle et dans le ventre, 2 enfants. Habitués de longue date aux accroupissements, disposent des craies, des cartes et des poignées de porte. Le monde peut bruire, le soir glisser comme une échelle, la mère, fatiguée d'attendre en cheveux courir les rues, son fils à l'autre parle, à coups de poing, de pied, au seul qui sache.
Dans la chambre qui est à l'avant du navire, où le chien dort, où l'herbe pousse un peu partout, sous la tirelire de la lampe, je suis là. J'habite une maison douce, et c'est l'hiver. On entend une locomotive. On entend une clé qui tombe, au loin, dans le sable. Soudain, quelqu'un se met à remuer doucement ses mains. Une terre légère. Et du fond de la nuit, voilà qu'une silhouette se détache, et que celui qu'on croyait mort traverse en souriant les murs. Il est debout devant le feu. Il porte des souliers de chasse. Père, réchauffe si tu le peux près de toi la petite place où nous dormirons tous les deux.
Voilà, ainsi s'achève cette première heure d'émission consacrée à René Guicadou, poète de la Loire, poète de la campagne, poète du grand cœur. Alors, je remercie tous les camarades qui m'ont accompagné dans cette émission. Christian Boisson, qui l'a préparé avec moi, qui est ici présent aussi. Mesdames, mesdemoiselles, Aurélie Vallier, Mélanie Arnal, pour qui c'est le baptême du feu, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, qui avait aussi préenregistré des textes, ainsi que Marc Pastor, et évidemment Patrick Vendrin, l'indéfectible. À la technique, eh bien, c'est Arnaud. Et puis, les crédits des musiciens à qui on a emprunté les musiques. J'ai cité tout à l'heure déjà Jacques Douai qui chantait Les Petits Trains, Martine Kaplan qui disait Allez Simple, Manu Lannuel, mais aussi les musiques de Renaud Garcia-Fons, d'Henri Texier, Louis Clavis et Aldo Romano qui jouaient à nos bons en trio, et d'Egberto Gismonti qu'on entend également derrière certains textes. Merci aussi à Jacques Bertin qui nous a prêté des documents rares. Voilà, ainsi s'achève cette première heure et on continuera bientôt en compagnie de René Guicadou. Peut-être je pourrais citer quelques textes qu'on peut consulter. En tout cas, le grand recueil des textes de Cadou, c'est presque tout en un volume chez Seger, ça s'appelle René Guicadou, Poésie, la vie entière. C'est les œuvres complètes chez Seger. Donc il y a aussi le petit livre de Michel Manol, je ne sais pas si on le trouve encore. Il y a eu plusieurs éditions chez Seger aussi, presque tout est chez Seger. Voilà. Et puis il y a, il faut le dire, on en reparlera dans la prochaine émission, mais les cahiers de l'école de Rochefort qui sont édités par les éditions du Petit Véhicule à Nantes et qui ont fait un travail remarquable depuis 20 ans sur toute cette école de poètes qui s'est réunie autour de René Guicadou. On en parlera bientôt. À bientôt donc.